fidèle au poste. Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus en ce début d'après-midi sur l'antenne de Radio Judaïka. J'espère vous trouver en bonne forme pour cette émission qui, dans quelques instants, essaiera de résoudre un mystère qui existe depuis des décennies, qui est la fameuse Michelle des Beatles. Nous parlerons cinéma avec Alfred Hitchcock et Woody Allen. Et en toute fin d'émission, nous évoquerons avec sa créatrice un roman graphique appelé Sultana. Vous avez le menu, installez-vous tranquillement, réglez bien le son. On est parti pour 30 minutes.
Beatles et compagnie.
Nous redécouvrons avec bonheur une chanson des Beatles. Aujourd'hui, Michelle, chanson écrite essentiellement par Paul McCartney, mais comme toujours, créditée Lennon-McCartney. Une chanson écrite en 67 et qui a reçu le Grammy Award de la chanson de l'année. En fait, la genèse de cette chanson remonte aux soirées d'étudiants des Beaux-Arts, au cours desquelles Paul McCartney et John Lennon virent un étudiant penché sur sa guitare jouer un petit air français. Paul le parodie à plusieurs reprises lors d'autres soirées, jusqu'à ce que John lui propose, en 65, de vraiment écrire une chanson française pour le prochain album. Le refrain est écrit avec l'aide de Jan Vaughan, l'épouse de Ivan Vaughan, et surtout professeur de français. Paul lui demande de trouver un prénom féminin français en deux syllabes, ainsi qu'une courte description de la fille en question. Ce à quoi il lui répond « Michelle, ma belle ». Plus tard, Jan lui traduit en anglais « Ce sont des mots qui vont très bien ensemble » et le refrain de la chanson est bouclé. Il y a deux versions concernant la Michelle en question. Une Michelle Phillips, la ravissante chanteuse du groupe américain The Mamas et The Papas. Une autre version, confirmée par Paul McCartney sur scène, attribuerait le choix du prénom à une jeune fan française rencontrée dans un hôtel parisien. En tout cas, combien de filles se sont appelées Michelle grâce à cette chanson ?
Get to you somehow.
l'anecdote ciné du jour.
On connaît souvent les films, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime connaître des anecdotes sur le tournage. Aujourd'hui, Alfred Hitchcock, son film de 1935, Les 39 marches. Alors vous le savez, dans la plupart de ses films, Hitchcock apparaît toujours en silhouette. Dans celui-là, c'est à la 7e minute du film, il croise les deux héros qui rentrent au théâtre. Mais l'anecdote, c'est lors du premier jour de tournage, Robert Donat et Madeleine Carroll se retrouvent à jouer une scène où ils sont enchaînés l'un à l'autre par une paire de menottes. Hitchcock prit soin de les attacher personnellement et après quelques prises, il a dit qu'il avait perdu les clés et s'est éclipsé. Il n'est revenu les libérer qu'en fin d'après-midi. Bon, on le sait, Hitchcock, il était un peu sadique.
Le tien, c'est le tien, et le mien, c'est le mien. L'accent. Le tien, c'est le tien, et le mien, c'est le mien. L'accent. Tu l'écoutes, je vois qu'il est bien. Chaque mot début possède le sien. Le français parlé par les Toulousains suit un certain destin. Le mien provient du languedocien, il vient de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient nous appartient, le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Il se mélange avec le tien, il y en a combien, il y en a plein. Algérien, marocain, brésilien, africain, italien, sicilien. Imagine tout ce qu'il contient, il est de la campagne, il est urbain, rien. Je ne regrette rien, ce qu'il devient m'appartient. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. L'accent de la télé ne signifie rien. Imposé par les infos, il déteint. Tous les pébrons prennent le sien. Oublie le leur, est-ce que ça te convient? Complètement aliéné soudain. Face au micro, alors il n'y a plus rien. Peur de l'accent qui vient d'où tu viens. Et pourtant, il t'appartient. Le tien, c'est le tien. Et le mien, c'est le mien. L'accent. Les médias c'est un déclin, la même pression partout se maintient. J'entends le seul et même refrain, le modèle du super citoyen. Si tu sais que c'est de quelque part que tu proviens, pour sérieux personne ne te tient. Folklorique pour eux égale crétin, un cliché auquel rien appartient. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent.
Le fabuleux troubadours.
Dis Marius, où y va ton père?
Eh, c'est lundi aujourd'hui.
Eh ben,
le lundi à midi et demi, mon père, il va chez sa maîtresse.
Ah oui, c'est vrai. Une femme superbe, monsieur Brun. Une Italienne qui pèse au moins 80 kilos.
Non, maintenant, c'est changé. Il a trouvé une Hollandaise qui pèse au moins le double.
Non.
Oui, mais faites semblant de rien savoir, hein. Il croit que personne s'en doute. Eh, le voilà.
Je sors. J'ai fait un petit tour en ville, là. Quelques courses sans importance. Oui. Enfin, je sors, quoi.
Bon.
Je pousserai peut-être une petite pointe jusqu'au café Mosteg. Il mangerait une soupe de poisson, une côtelette. Oui. Enfin, je sors.
Au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications.
Des explications? Mais je ne donne pas des explications, monsieur. Je dis simplement que je vais au café Mosteg manger une soupe de poisson. Ce n'est pas des explications. C'est un renseignement.
C'est-à-dire que si l'on a besoin de vous, on n'a qu'à aller vous demander au café de M. Mosteghi.
Non, monsieur, on n'a pas besoin de me demander au café de M. Mosteghi. Et d'abord, pourquoi viendrait me demander au café de M. Mosteghi? Si vous avez quelque chose à me dire, vous avez qu'à me le dire tout de suite.
Mais moi, je dis
que je n'ai rien à dire. Et que si ça m'a fait plaisir de sortir, je n'ai pas besoin de demander la permission à un Lyonnais.
Mais personne ne peut dire le contraire.
Mais bon Dieu. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette inquisition, là, hein? Si j'avais 86 ans, je comprendrais qu'on s'occupe de moi, qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais enfin, j'ai encore la tête à moi. On peut me laisser sortir seul. Je ne tomberai pas dans le vieux port, n'est-ce pas?
Voyons, papa, personne ne te dit rien. Tu vas faire un petit tour, c'est naturel.
Ah, voilà le mot. C'est mon fils qui l'a trouvé, le mot. C'est mon enfant qui l'a trouvé, le mot. C'est naturel. Je sors naturellement. C'est vrai, ça, c'est toujours ceux qui n'ont rien à dire, qui se mettent au milieu des choses, qui ne les regardent pas.
Il est brave.
Et puis, voilà, c'est, n'est-ce pas, monsieur Brun, non, t'inquiète. C'est tranquille, monsieur Brun.
Au revoir, César.
Adieu, Paris.
Adieu, César.
Alors, je sors, petit, hein. Dis donc, si la voiture de Picon passe, tu prendras 12 bouteilles, ça fera 240 francs.
Oui.
Tu te rappelleras, hein, 12 bouteilles, 240 francs.
Oui.
Voilà.
J'ai pas besoin de te le répéter, qu'est-ce?
Eh, non, il n'y a pas besoin de me dire 20 fois les choses. Si la voiture de Picon passe, je prendrai 240 bouteilles, puis voilà.
Oh, Sainte Vierge, mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour m'avoir donné un enfant idiot? Mais c'est pas possible, mais c'est pas moi qui t'ai mis au monde.
La recommandation du jour.
Chaque jour, je vous recommanderai des films à voir ou à revoir. Comme par exemple ce « Tombe les filles et tais-toi », « Play it again Sam », un des premiers films de Woody Allen. Ça n'est d'ailleurs pas à proprement parler un film réalisé par Woody Allen, puisqu'il en avait confié la réalisation à son camarade Herbert Ross. En réalité, il s'agit d'un scénario de Woody Allen adapté de la pièce de théâtre qu'il jouait sur les scènes de New York et qui s'appelait « Une aspirine pour deux ». Au théâtre comme au cinéma, il donne la réplique à Diane Keaton et à Tommy Roberts dans cette comédie hilarante où Alan Felix, interprété par Woody Allen lui-même, vient de divorcer. Ses deux amis, Linda et Dick, essayent de le convaincre de trouver quelqu'un avec qui sortir. Il est d'accord et reçoit des conseils en ce sens de la part du fantôme d'Humphrey Bogart. C'est un film de 1972 où tous les grands thèmes et l'humour de Woody Allen sont déjà présents.
Je n'ai pas d'avocat. Qu'il contacte mon psychiatre.
Mais qu'est-ce qui cloche en moi? Pourquoi je ne suis pas décontracté? Quelle est la recette?
Il n'y a pas de recette, fiston. Des nanas, c'est simple. J'en ai jamais connu qui soit insensible à une baffe à travers la gueule ou à un pruneau dans le buffet.
Oui, toi, tu es Humphrey Bogart. Mais je ne pouvais pas là-bas pendant si nos rapports se plaçaient sur un autre plan.
Sur un autre plan? D'où sors-tu cette expression? Tu l'as piqué à ton charlatan de psychiatre?
Et je ne suis pas comme toi. Quand à la fin de Casablanca, tu perds Ingrid Bergman, tu es effondré, non?
Un grand verre de bourbon soda et je récupère.
Écoute, je bois jamais, ma constitution ne tolère pas l'alcool.
Eh ben, je vais te donner un conseil, moi. Laisse tomber tes fameux rapports à la gomme. Le monde est plein de bonnes femmes. Si t'en veux une, t'as qu'à siffler.
Thank you.
Vous l'avez certainement reconnu, une musique du contrebassiste israélien Avishai Cohen, ici avec son trio.
Le coin des archives.
Cannes, pour sa part, est resté dans la meilleure tradition. À quelques lieues du palais du festival, un déjeuner a réuni les quatre grands du cinéma. Les Russes, les Américains et les Anglais ont pu apprécier l'hospitalité des producteurs français. Pourtant, la guerre du 13e festival a eu lieu. Malgré toutes ses qualités, l'Amérique insolite de François Reichenbach n'a pu faire triompher les couleurs du cinéma français. Le palmarès devait être proclamé dans la salle du palais au milieu d'une affluence considérable. En présence de M. Ternoir, ministre de l'Information, Nicole Courcel et Shelley Winters remirent les diplômes à Jeanne Moreau et à Mélina Mercouri, prix ex aequo de la meilleure interprétation féminine, et la palme d'or au réalisateur italien Federico Fellini pour son film La Dolce Vita. À Cannes, au rendez-vous annuel des Sunlight et du Soleil, les photographes sont demeurés sans répit à l'affût du charme. Mais à côté de l'audace et de la bizarrerie, le festival est resté le haut lieu du 7e art et a été inauguré par M. Fouré-Cormeret, directeur général du cinéma français. Les grandes vedettes y sont venues recevoir cette récompense traditionnelle des gens du spectacle, dont les héros des salles obscures ne se consolent pas d'être privés, les applaudissements de la foule et les bruits de la gloire. À Cannes, les derniers sursauts de la fantaisie et de la gloire ont connu leur apothéose au cours du lunch offert par Eddie Barclay à l'occasion de la présentation d'Aimez-vous Brahms. Cette veillée d'armes fut dans le bon ton du festival qui, autour des œuvres, est demeurée encore cette année pour les héros des salles obscures et leur public, la brillante kermesse du 7e art. Après l'agitation et les fêtes, ce fut l'heure grave de la distribution des prix. La Palme d'Or, partagée, a été attribuée au grand cinéaste espagnol Buñuel pour son film Viridiane et au film français Une aussi longue absence. Sophia Loren et Anthony Perkins ont été sacrés meilleurs interprètes. Puis le festival s'est achevé sur le sourire de celle qui fut sa reine.
Le 16e festival du cinéma s'est ouvert à Cannes dans le palais d'une croisette remise à neuf, à l'ombre des oriflammes des 18 nations engagées et sous la houlette du maître du suspense Alfred Hitchcock et de sa dernière trouvaille, la jeune Tippi Hedren. Du suspense, il y en aura sûrement au moment des délibérations, et si Bette Davis, qu'accompagne pour la première fois sa fille, est presque sûre de son prix d'interprétation, bien d'autres vedettes viennent chercher à Cannes la consécration d'une carrière déjà bien assise.
En présence de M. Perfit, ministre de l'Information, ont été décernées les récompenses du Festival de Cannes 1963. Luschino Visconti a reçu la Palme d'Or, Masaki Kobayashi le prix spécial du jury et Marina Vladi le prix d'interprétation féminine. La présentatrice, toute de blanc vêtue, c'était Jeanne Moreau.
La Croisette est de nouveau à l'heure du 7e art. Pour la 17e fois, s'est ouvert le festival du film, dont le jury, présidé par Fritz Lang, avec Geneviève Page comme seule femme dans ses rangs, ne décernera que 4 prix cette année. C'est une nouveauté. Un grand prix, un prix spécial et 2 prix d'interprétation seulement, pour revaloriser un festival où l'abondance des récompenses était devenue la règle bienveillante. Les vedettes étaient nombreuses sur la Croisette dès les premiers jours pour créer l'ambiance traditionnelle avec l'aide habituelle des photographes et de leurs victimes de moindre envergure toujours consentantes. Le festival du film, 17e du nom, qui vient de s'achever à Cannes, aurait été sans nul doute le plus sage et le plus sérieux de la série. Le plus secret aussi, car jusqu'aux toutes dernières minutes, rien n'avait filtré les décisions du jury, et il aura vraiment fallu attendre la remise des prix, grand prix et prix spécial cette année, et non plus palme d'or pour les grands films, pour savoir que la France avait gagné, suivi de près par le Japon.
Fidèle au poste, Radio Judaïka.
Sarah est une fille de Marseille. Elle a 35 ans, elle est célibataire, adore sa vie, ses amis, faire la fête et danser. Elle est l'héroïne d'un roman graphique signé Lillison et Elodie Lascar, disponible aux éditions Stenkis et dont le nom est Sultana. C'est une jeune femme indépendante qui compte bien le rester, mais elle voudrait aussi trouver l'amour, dormir en cuillère avec quelqu'un, voire même avoir des enfants. Au fur et à mesure qu'avance l'album, on partage avec cette jeune femme ses questions existentielles dont on comprend qu'elles sont également celles de ses auteurs. Elodie Lascar, rencontrée justement dans les rues de Marseille.
C'est un récit intime d'une femme de 35 ans qui habite à Marseille. Tous les éléments se retrouvent dans le livre. C'est inspiré de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu, des gens que je connais, qui m'entourent, que j'aime, qui se retrouvent à travers les personnages de fiction. Lillison, qui a écrit avec moi, on est amis, que ça fait longtemps qu'on discute de notre rapport, que ce soit à la sexualité, à la famille, à l'amour, au travail. Donc on partage un peu les mêmes sentiments, enfin les mêmes questionnements, et ensuite chacune a mis d'elle. On habite toutes les deux à Marseille et on avait envie d'ancrer notre histoire dans cette ville pour pouvoir la dessiner. J'y habite et j'avais envie de la regarder à travers le dessin et de la montrer comme moi je la vois, quoi.
Ce roman graphique au dessin moderne, gros traits noirs, à plat de couleur rose, raconte aussi la vie à Marseille, des lieux nocturnes au soleil des plages en bord de Méditerranée.
Cette ville est hyper vivante et j'avais envie qu'on voit ça, à quel point elle est multiple dans ses paysages, dans ses habitants et dans les différents... Les différents quartiers. Bah, c'est une ville qui est culturellement hyper riche, qui connaît, qui a des gens qui viennent de partout et qui ont des communautés très fortes. Et ça, quand on vit ici, on le ressent. C'était important pour moi que ça se ressente dans l'album. J'essaye d'avoir un rapport qui soit ni trop réaliste ni pas du tout. C'est-à-dire qu'on reconnaisse Marseille, qu'il y ait une réalité dans les corps, et en même temps qu'on vienne que la lumière soit quand même assez centrale. Et pour ça, je trouve que la bichromie, le noir et blanc et la joue de rose vient aider à faire une narration via la couleur et la lumière.
L'entourage de l'héroïne semble se liguer pour lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant et qu'il faudrait qu'elle se dépêche de trouver un conjoint. À commencer par sa mère et sa famille juive, qui a du mal à comprendre sa vie.
Alors, moi je suis de confession juive, c'est une histoire que je connais, dans le sens où la religion juive, elle a une histoire qui peut prendre beaucoup de place dans la vie intime. Et sans vouloir être caricaturale, parce que j'ai beaucoup d'amour pour ma religion, elle prend quand même beaucoup de place, surtout dans la vie intime. Parce que créer un foyer juif, c'est très important dans cette religion. Et du coup, le foyer, la sexualité, enfin, la vie intime fait intégralement partie de la vie que donne nos familles, quoi.
Des questions universelles et un contexte très contemporain font la saveur de cet album.
Ah, pour moi, l'histoire de Sultana, c'est quelqu'un qui s'éveille à son propre désir, qui va essayer de le chercher et de s'affranchir de certaines contraintes pour réussir à désirer par elle-même.
Sultana de Lillison et Elodie Lascar est proposée aux éditions Stenkis. Ainsi se termine notre émission du jour. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres en allant sur le site de la radio à l'onglet podcast. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver un certain nombre d'émissions de la chaîne, un véritable coffre au trésor. Rendez-vous demain pour l'ultime émission de la semaine, je serai là à 14h. Bon après-midi à l'écoute de Radio Judaïka.